Je vais vous parler de monnaie, d'histoire de la monnaie, des enjeux qu'il y a à l'heure actuelle autour de l'évolution de la monnaie. Et effectivement, j'ai eu une carrière assez diverse. Ça prouve que je commence à avoir un certain âge. Lorsque j'ai pris la direction de la revue sociétale, le président de l'Institut de l'entreprise, qui était à l'époque Michel Pémereau, parlant de l'école polytechnique, dont je suis effectivement diplômé, m'a demandé si j'avais fait l'école polytechnique sur la montagne Sainte-Geneviève ou à Palaiseau. Et j'ai répondu sur la montagne Sainte-Geneviève. Il m'a dit « c'était la vraie école bon, ». J'en sais rien, mais ça prouve que je suis vieux. Parce que ça fait un certain temps maintenant que cette école n'est plus sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Alors, deux autres remarques personnelles. Mon premier poste à la direction régionale de l'INSEE était à Lyon. Et donc, il y a peut-être parmi vous des gens qui m'ont croisé à l'époque. C'était il y a 30 ans. Et je dois dire que Lyon a quand même beaucoup changé par rapport à il y a 30 ans. J'habitais rue Garibaldi. Et le préfet, je travaillais à la direction régionale à la préfecture, c'était Olivier Philippe. Et pour les 30 ans que j'ai fait dans le Monde, le dernier article que j'ai fait dans le Monde, c'était un portrait de son père, André Philippe, qui a été un très grand économiste, un très grand homme d'État, et je crois un très grand Lyonnais, puisqu'il n'était pas né à Lyon, mais il a fait l'essentiel de sa carrière universitaire ici même. Et alors, deuxième remarque un peu plus personnelle, et ça va me permettre de rebondir sur ce que je vais vous raconter. Dans le livre où je parle des combattre les rentes et promouvoir les talents, je fais référence effectivement à Fourier. Fourier qui était aussi un Lyonnais. Enfin, il était de Besançon, mais il a passé la terreur ici et il a assisté à ce qui s'est passé ici pendant la Révolution. Vous n'y étiez pas, moi non plus, mais enfin, ça a laissé des souvenirs. Bon, sur la plaine des Brotteaux, on réglait les problèmes à la guillotine de poudre, comme disait Fouché, c'est-à-dire on tirait au canon sur la population. Et Fourier expliquait que dans une société, le véritable combat n'est pas entre les riches et les pauvres, mais entre les rentiers et les talentueux. Alors, je reviendrai là-dessus sur ce que ça signifie, notamment sur le plan strictement monétaire, mais il prenait l'exemple d'une pomme, et si vous allez à Paris, vous verrez que sur sa tombe, il y a une pomme, et puis sur sa tombe, il y a les quatre coniques, car il était un grand admirateur de Newton. Alors je vais vous raconter l'histoire de la pomme, et puis ensuite je vais rentrer plus directement dans le vif du sujet. Certains d'entre vous connaissent peut-être la pomme de Fourier. J'ai peut-être en face de moi des lecteurs et disciples de Fourier en abondance, mais Fourier disait qu'il y avait quatre pommes qui avaient marqué l'histoire de l'humanité. Alors, la première, c'est facile à savoir, c'est la pomme d'Adam et Ève. La deuxième, c'est celle de la guerre de Troie. La troisième, c'est celle de Newton. Et la quatrième, c'est l'aventure qui lui était arrivée. Donc Fourier, à la fin de sa vie, a quitté cette ville pour essayer de faire fortune sur la base de la recommandation de son cousin, qui était un mathématicien célèbre, qui était préfet à Grenoble, et donc dans la région. Et donc Fourier arrive à Paris, et la première chose qu'il s'offre, car il avait une vie assez solitaire, c'est un bon repas dans un grand restaurant. Donc il va chez Lucas Carton, qui est un restaurant qui existe encore, place de la Madeleine, et il aperçoit un convive qui est en train de dîner seul. C'est Brillat Savarin qui venait de faire son travail de critique gastronomique. Et à la fin du repas, Brillat Savarin, qui avait bien mangé, était en train de manger une pomme. Donc Fourier va au-devant de lui et lui demande s'il peut partager son dîner. Et Brillat Savarin lui dit « Oui, mais enfin, j'en suis au dessert, donc ce sera assez bref. » Et la pomme valait un franc. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et le kilo de pommes était à 2 sous. Donc vous imaginez la différence entre la pomme à 1 franc et le kilo de pommes à 2 sous. Et donc Fourier s'indigne du fait qu'il ne s'est rien passé. Le restaurateur n'a pas fait l'expression d'un talent. Le restaurateur n'a rien fait. Il s'est contenté d'aller acheter un kilo de pommes chez l'épicier en bas, de monter ce kilo de pommes dans son restaurant, puisque Lucas Carton, si vous connaissez un peu Paris, Lucas Carton, c'est à l'étage. C'est pas de plein pied. Et le simple fait de monter un escalier a fait passer une pomme de 2 sous le kilo à 1 franc la pomme. Il y a une société qui est une société dans laquelle les prix n'ont aucun sens, dans laquelle effectivement l'organisation du commerce fait que certains individus, parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils sont un lieu, parce qu'ils ont un titre, valorisent ce titre de la façon dont ils le valorisent, est une société qui est condamnée. Et donc la bonne réponse, c'est de créer des sociétés qui respectent le talent et qui évitent que des gens, du fait de leur statut juridique, puissent arriver à être dans des situations où ils captent du revenu chez les autres. Alors, à l'heure actuelle, ce que je vais regarder aujourd'hui, c'est parmi les rentes, il y a une rente monétaire. Et cette rente monétaire, sur le plan international, elle est accaparée par un pays. Ce pays, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que la force des États-Unis, c'est de gérer la rente monétaire. Et ça va être un peu le thème de regarder comment, effectivement, s'organise le système monétaire, comment a été théorisée la monnaie, et surtout comment les États-Unis ont acquis cette rente monétaire. Donc, quand j'étais ici, c'était dans les années 70, et donc, négocier les accords de la Jamaïque, et c'est dans les années 70 que le secrétaire au Trésor américain, qui s'appelait Connelly à l'époque, a eu cette formule exceptionnelle, il a dit « le dollar, c'est la monnaie des États-Unis, et c'est le problème du reste du monde ». Et donc, le dollar, c'est effectivement le problème du reste du monde, et c'est le pouvoir des États-Unis. Tous les gens qui sont dans cette pièce ne verront pas la fin des États-Unis. Et ce pouvoir monétaire est considérable, parce que, nous allons voir ça, la Chine, c'est 3200 milliards de dollars de réserves monétaires. C'est-à-dire 3200 milliards d'argent stérilisé stupidement sur le dos du peuple chinois. Et on dit, grâce à ça, ils tiennent les États-Unis. Ils sont les créanciers. Les États-Unis, en termes de quantité de dollars potentiels, c'est l'infini. Donc, les États-Unis ont l'infini, et les Chinois, ils ont 3200 milliards. Ça veut dire que, concrètement, les États-Unis n'ont pas besoin des Chinois. Et je reviendrai là-dessus, mais non seulement ils n'ont pas besoin des Chinois, mais ils se réjouissent des raisons pour lesquelles les Chinois leur livrent à bas prix leur travail. Parce que la monnaie, c'est le mode d'évaluation de la qualité et de la quantité de travail. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les États-Unis ne sont pas menacés par la Chine. Ils exploitent la Chine de façon éhontée, avec la complicité de gens qui décident sous un portrait de Karl Marx. L'ironie de l'histoire sera été que les gens les plus exploités l'auront été au nom de Karl Marx et de Vladimir Lénine, au profit de l'impérialisme américain. Alors, on va regarder ça dans l'heure et demie que nous allons passer ensemble, et comment, effectivement, s'est construit ce pouvoir monétaire. Nous allons commencer par quelque chose que j'appelle monnaie-monnaie. On vous a fait de multiples considérations sur la monnaie. Vous remarquez qu'en français, monnaie, ça prend deux N, alors que monétaire, ça prend un seul N, et qu'en anglais, monnaie, ça prend un seul N. Je ne vais pas insister là-dessus. L'origine de la monnaie est du mot monnaie n'a rien à voir avec ce que c'est la monnaie. Pour ceux qui ont fait du latin parmi vous, moneo, ça veut dire prévoir, et le monetum, qui est l'endroit où on fabriquait la monnaie à Rome, n'a rien à voir avec le fait qu'on y fabriquait de la monnaie. Moneta, c'était la caractéristique de Junon, qui était la femme de Jupiter. Je vous rappelle qu'elle avait été... Elle s'était agacée d'une certaine forme d'infidélité de son mari à l'égard de, et donc pour la punir de son arrogance à l'égard de son mari, Jupiter lui avait donné la capacité à voir l'avenir. Comme ça, elle voyait à l'infini du temps le nombre de fois où elle allait être cocu. Donc cette mésaventure lui était annoncée de longue date. Donc Junon était Moneta. Quand Constantin le Grand a réorganisé Rome avant de partir à Constantinople, il a désacralisé un certain nombre de temples et il a transformé un de ces temples en atelier monétaire. Il a créé une monnaie qui était une monnaie d'or, qui était une monnaie fiable et suivant le principe de pouvoir monétaire de l'Empire. C'est-à-dire que l'Empire romain finissant avait acquis la conviction qu'une des conséquences, une des forces qu'il pouvait garantir sur le reste de la planète, c'était de détenir le pouvoir monétaire. Je reviendrai là-dessus sur une anecdote aussi qui fait un parallèle entre ce pouvoir monétaire actuel et le pouvoir monétaire actuel des États-Unis et le pouvoir monétaire des Romains d'Orient. Bien. Et donc, la monnaie n'a rien à voir avec son étymologie. Pourquoi il y a deux N ? Parce que les copistes du Moyen-Âge éprouvaient le besoin de rajouter des lettres. Pendant très longtemps, l'expression monnaie a varié avec un seul et deuxième, avec un ou deux N. Le deuxième N a été définitivement enregistré parce qu'au moment où on a réouvert l'Académie française après la Révolution, l'abbé Morlaix, qui avait été un grand économiste, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie, a accueilli le premier consul. Et le premier consul lui a demandé à quel mot en était l'Académie française dans son dictionnaire. Et Morlaix a dit, nous en sommes à Monet. Alors Bonaparte a écrit Monet avec deux N. Donc Morlaix avait le choix entre dire à Bonaparte, écoutez, normalement ça s'écrit avec un seul N, au risque de voir de nouveau l'Académie française en prendre pour 10 ans, et, ou s'écraser. Et comme il y avait des copistes du Moyen-Âge qui avaient mis deux N, le deuxième N est rentré. Donc la monnaie, c'est quelque chose qui ne peut pas se définir à partir de son étymologie. Je vous rappelle que la monnaie, ça sert normalement à faire 3 choses. Ça sert à réaliser des échanges, à éviter le troc. Ça sert à exprimer la valeur des objets. Et ça sert à conserver du pouvoir d'achat dans le temps. Grosso modo, vous avez de la monnaie parce que c'est plus pratique que le troc. Le troc, ça peut exister. Si vous avez besoin de pain, vous pouvez aller voir votre boulanger avec de l'huile, si vous êtes producteur d'huile. Rien ne prouve que votre boulanger ait besoin d'huile. Donc il faut que vous trouviez un moyen d'intercession entre ce que vous disposez et ce dont disposent les gens à qui vous voulez acheter quelque chose. Donc la monnaie, ça joue un moyen, un rôle d'intercession. Un des grands débats dans l'histoire de la pensée économique, c'est est-ce que ce rôle de conservation du temps, ce rôle d'organisation et de destruction et de transfert du temps, est-ce que ce rôle modifie la situation économique ? C'est-à-dire que est-ce que la monnaie, c'est juste un outil qui permet de gérer du temps, de gérer et de transférer du revenu et du pouvoir d'achat dans le temps ? Ou est-ce que la monnaie, c'est quelque chose qui, par sa raison d'être, a un pouvoir autre qui peut modifier la production ? Est-ce que ça permet le transfert de la production ou est-ce que ça conditionne l'émergence de la production ? Alors, historiquement, vous avez de multiples références, de multiples éléments qui définissent ça. Je vais juste faire un petit commentaire sur la situation de l'économie française pour répondre à cette question selon moi. Voilà l'évolution de l'économie française, puis je reviendrai sur la monnaie. Pourquoi je vous donne cette évolution de l'économie française ? Parce que ça permet de définir les conditions dans lesquelles se déroule le débat économique actuel. Vous avez sous les yeux l'économie française depuis 1960. Pourquoi 1960 ? Parce que 1960, c'est depuis 1960 que l'économie française est autonome. Avant 1960, l'économie européenne était gérée par les États-Unis. On vous raconte dans la presse, avec beaucoup de constance, que les Allemands sont obsédés par l'inflation et qu'ils ont créé une Bundesbank indépendante avec comme objectif de lutter contre l'inflation pour ne pas revivre les drames de 1920 ou de 1945. C'est une vision très intéressante de l'évolution de l'Allemagne, mais quand la Bundesbank a été créée sous la forme actuelle, c'était en 1957, et quand elle a été créée sous sa forme la première, c'était en 1948. Il est à la fois bien naïf et bien ignare de penser qu'en 1948, les Allemands aient créé quoi que ce soit. En 1948, en Allemagne, les Allemands ne créaient rien. Les gens qui ont créé la Bundesbank, ce sont les Américains. Et les Américains ont géré l'Europe en ligne directe depuis jusqu'en 1960. Depuis, ils le font de façon moins brutale. On va voir ce qui se passe, à mon avis. Mais penser qu'avant 1960, il y ait eu la moindre autonomie politique économique en Europe est une absurdité. Les Français, de temps en temps, s'étaient rebellés. En 1948, ils ont voulu dévaluer. Je reviendrai là aussi là-dessus. Il y a des obsessions d'évaluation dans le monde. On veut dévaluer. Et donc, les Américains ont dit non. Et donc, on a exclu la France du FMI. Et ce jour, la France est le seul pays à avoir été formellement mis en suspens du FMI, entre 1948 et 1956. Alors, depuis 1960, qu'est-ce qu'on retient sur l'économie française et qui va guider notre propos et qui va guider les enjeux que nous avons à faire face, auxquels nous avons à faire face. Il y a 4 choses à retenir sur ces courbes. La courbe verte, c'est l'évolution de la production en valeur, et la courbe rouge, c'est l'évolution en quantité. La différence, c'est donc les prix. Ça mesure ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire, c'est l'impact de l'augmentation de la quantité de monnaie sur la déformation du système de prix. Donc, premier constat, c'est que l'économie française a connu une dégradation de son niveau de production de façon continue et régulière depuis 1960. Vous avez une pente dans laquelle la croissance de l'économie française se réduit régulièrement. Je ne vais pas vous faire ma séance aujourd'hui là-dessus, puisque ce n'est pas le thème, mais c'est un des enjeux de notre avenir. C'est-à-dire que la croissance moyenne des années 60 était à 5%. La croissance moyenne qu'on nous annonce pour les années 2010 est quasiment nulle. Et donc, un des enjeux qui va se poser à ce pays, c'est de savoir est-ce qu'il a la capacité à recréer de la croissance. Mais je laisse ça de côté, c'est d'autres qui viendront vous en parler dans d'autres cycles de conférences. En termes de cycles, ça me permet de rebondir. Vous voyez que la croissance n'est pas régulière et ça plonge. Ça a plongé en 75. On ne le voit pas, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien depuis là où vous êtes, mais ça a failli plonger en 82-83, puis ça n'a pas plongé, parce qu'on a mis le paquet pour que ça ne plonge pas. Sauf qu'on a juste différé l'affaire. Ça a failli plonger en 82, ça aurait dû plonger en 82, et ça a plongé un peu après. Puis ça a plongé en 93. Alors 93, vous vous en souvenez, c'était il y a moins de 20 ans, le taux de chômage est monté jusqu'à 13%, 12,5%. On n'en est pas encore là. Nous vivons la pire crise que la France ait connue depuis, d'après les journaux, je pense même depuis Clovis. Mais on n'a encore pas le niveau de chômage de 1995. Bon. Donc la mémoire est courte et le commentaire excessif. Puis ça a plongé en 2001, moins, et puis ça vient de plonger en 2009. Donc deuxième élément, nous avons une économie qui est une économie cyclique. Et donc le problème de cette économie, ce n'est pas les plonger, c'est les remonter. À chaque fois, on ne remonte pas aussi haut que précédemment. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on ne voit pas que l'année 2011 était une année favorable. C'est le maximum de l'endroit où on peut remonter, avec un niveau de chômeur qui était un niveau de chômeur à 2 500 000, 600 000. Donc, deuxième élément, on a une économie cyclique. Mais troisième élément, qui est le plus important, c'est que l'inflation, l'impact que peut avoir la gestion de la monnaie sur la croissance économique est assez décevant. C'est-à-dire que dans les années 60-70, pour essayer de contrebalancer le fait que la tendance à la croissance était de s'aplatir, que la tendance de la croissance était de se ralentir, on a essayé de faire de l'inflation. Quand j'étais ici, à la direction régionale de l'INSEE, le premier débat auquel j'ai participé était organisé par la Société d'économie politique locale. Il y a une société d'économie politique à Lyon. Moi, je suis membre de la Société d'économie politique, tout court. Et puis, il y a une antenne ici, avec laquelle, d'ailleurs, nous n'avons absolument aucun contact, qui mène sa vie. Bon, donc, il y a une Société d'économie politique de Lyon. Très bien. Et donc, quand j'étais ici à la direction régionale de l'INSEE, j'avais fait un premier débat avec, c'était la première fois de ma vie, avec Alain Cotta, économiste connu, reconnu, toujours en activité, car économiste, vous verrez, c'est un métier où on vit vieux. Parmi les activités que j'ai, c'est que dans les chroniques que je tiens dans Le Monde, c'est moi qui fais les nécrologies des économistes. Et donc, bon, alors vous les voyez passer, mes nécrologies, sans s'apercevoir que c'est moi. Enfin, vous ne savez pas que c'est moi. Mais bon. Et donc j'ai sur cette clé USB, là, j'ai la nécrologie prête de tous ceux qui sont nés avant 1925. Mais il y en a encore beaucoup. Hein. Bon. Donc, c'est un métier où on vit vieux. On n'a pas de soucis, vous savez, on n'a pas de soucis, c'est paisible. Quand vous êtes sur la bourse et que vous avez placé vos économies, si ça plonge, pof, vous êtes ruiné. Nous, économistes, si ça plonge, on est de nouveau sur les plateaux de télé pour venir expliquer pourquoi ça a plongé. Et puis si ça remonte, vous êtes soulagé. Une joie intense, ça peut provoquer des chocs. Nous, on est de nouveau sur les plateaux de télé pour expliquer pourquoi ça monte. Bon. Donc, c'est un métier paisible. Et Alain Cotta avait expliqué, alors à l'époque j'étais jeune, donc j'avais la forme de. J'avais l'insolence des jeunes, mais de temps en temps je me calmais, ce truc. Bon. Et donc il avait expliqué que l'économie française ne pouvait pas descendre en dessous de 10% d'inflation, et que de toute façon, il fallait accepter l'idée que plus il y avait d'inflation, plus il y avait de croissance, et donc. Ça n'avait aucune importance qu'on soit obligé de tourner à plus de 10% d'inflation. Bon. C'était dans la période où il y avait plus d'inflation et de moins en moins de croissance. Et quatrième élément, l'inflation, on s'en débarrasse très vite. En fait, la gestion des problèmes monétaires est une gestion dans laquelle la gestion de la quantité de monnaie peut se faire de façon très très simple. Vous avez un outil qui gère la quantité de monnaie en circulation de façon indirecte, qui est la Banque centrale. Et cette banque centrale a une capacité à se débarrasser de l'inflation qui est très rapide. Vous voyez que dans les années 80, à partir du moment où en 1983, le président de la République de l'époque a décidé d'associer notre destin à celui de l'Allemagne, nous nous sommes débarrassés de l'inflation en 3 ans. Par une politique monétaire rigoureuse et brutale qui nous a débarrassés de l'inflation. Alors, se débarrasser de l'inflation, c'est limiter la quantité de monnaie en circulation. Et donc, avant d'aller plus loin, la question qui se pose, c'est qui crée de la monnaie ? Alors, les avis sont très différents dans l'opinion publique en général. Il y a ceux qui pensent que c'est l'État. Et l'État ne crée pas de monnaie. La seule intervention de l'État dans la monnaie, c'est qu'il peut s'endetter. Donc. Et puis, les pièces que vous avez sont de la dette de l'État. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais les pièces métalliques, c'est de la dette publique. Si on regarde la comptabilité de l'État, il y a un poste dette monétaire de l'État, et ce sont les pièces métalliques. C'est le vieux privilège de l'État de gérer le métal. La conséquence, c'est que dans la zone euro, ces pièces sont encore identifiées sur les États, et quand cet État est une monarchie, en général, vous avez le portrait du roi, qui est sur le roi, bon. Donc vous avez des euros avec le grand-duc, le roi des Belges, le grand-duc du Luxembourg. Bon, donc si vous avez la curiosité de regarder, vous avez des portraits des souverains français, des souverains européens. Alors, la deuxième autre idée, c'est que c'est la Banque centrale qui crée de la monnaie. En fait, la Banque centrale ne crée pas de monnaie. Qui crée de la monnaie ? Ce sont les banques commerciales. Autrefois, la monnaie de référence était l'or. Mais l'or a disparu. L'or a été sorti du système monétaire. J'insisterai là-dessus sur les conséquences que ça a, mais l'or a disparu en 1971. Le modèle américain est fondé sur la capacité des États-Unis à ne pas référencer la création monétaire sur un bien matériel. Et donc, qui crée de la monnaie ? Ce sont les banques. Alors, il y a une idée qui est une idée là aussi assez couramment répandue qui consiste à dire que les banques reprêtent l'argent qu'on leur apporte. La traduction de ça, c'était le théorème de Cantona. Vous sortez votre argent des banques et vous les mettez dans la merde. Et donc vous vous vengez. Bon. Alors le plus dramatique dans cette affaire, c'est que j'ai été obligé de débattre avec Cantona. C'est des épreuves. Hein. Alors on y va dans ces cas-là par esprit sociologique. Mais quand même. Et dans le débat, c'était sur Europe 1, de trucs, après on appelle l'auditeur, et donc, enfin je ne dis pas ça pour vous, mais l'économie d'une façon générale suscite beaucoup de commentaires, et moi, vous savez, je suis quand même un économiste de second, comme les banques de second rang, moi je suis un économiste de second rang, je ne sais pas. Et donc, je passe surtout dans les émissions de télé entre 3h et 4h du matin, vous savez, dans les émissions sur la TNT, entre l'émission sur la catastrophe aérienne et l'émission sur améliorer les performances de votre jardin. Et donc, pour les deux, vous avez une émission. Donc, je fais la formation économique des insomniaques. Mais alors, l'insomniaque a une vision de l'économie assez péremptoire. Je ne sais pas si c'est parce qu'il dort peu, mais alors, donc, le nombre de mails où vous ne comprenez rien... Ça doit être vrai que j'y comprends rien. Mais en fait, bon, et alors la seule chose que j'ai réussi à comprendre, moi, c'est que la banque ne reprête pas ce qu'on lui apporte. On lui apporte ce qu'elle nous a prêté. C'est-à-dire que ce n'est pas les dépôts qui permettent aux banques de faire crédit, c'est parce que les banques font crédit qu'il y a des dépôts. C'est-à-dire que les banques créent de la monnaie ex nihilo. Alors pour bien comprendre ça, j'ai juste une figure, une présentation de ça, qui est le fait que lorsque vous allez voir votre banquier pour lui demander un prêt, alors la plupart du temps, la plupart des gens, c'est un prêt immobilier, votre banquier va regarder votre capacité de remboursement, va regarder votre projet de vie. Mais, et puis il va vous prêter. Mais est-ce que quelque part, une fois dans votre vie, quand vous êtes allé le voir pour emprunter, pour faire une acquisition immobilière, il vous a dit, écoutez, voilà, comme je reprête les dépôts qu'on m'apporte, vous avez en bas de la rue là, un boulanger, chez mon client, et donc je vais vous reprêter les dépôts qu'il va m'apporter. Donc, s'il a fait une bonne journée, si ce matin, sur le pain au chocolat, ça s'est bien passé, vous aurez un 4 pièces. Maintenant, si, pour une raison quelconque, la population s'est limitée sur le croissant, mais vous aurez droit à un studio. Est-ce que, quelquefois, un banquier vous a dit ça ? Non, jamais. Parce que le banquier ne vous reprête pas les dépôts que lui apporte le boulanger, Il vous prête quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et donc, le véritable enjeu de la création de monnaie, c'est non pas la quantité de monnaie que crée le banquier, c'est la qualité de monnaie qu'il met en circulation. Concrètement, lorsqu'un banquier prête à quelqu'un, si le quelqu'un crée de la richesse, mobilise du travail, vous avez simultanément une augmentation de la quantité de monnaie en circulation et une augmentation de la quantité de biens à échanger. Vous avez plus de monnaie, donc plus de pouvoir d'achat, plus de capacité de dépense, et en regard, vous avez plus de richesses, plus de biens à échanger, et donc les prix restent stables. Quand les prix augmentent, c'est que le banquier a prêté à n'importe qui. Quand on veut faire baisser les prix, ben il faut empêcher le banquier de prêter. Et donc, une politique monétaire, ça consiste à limiter les capacités de prêt des banquiers, mais ça consiste surtout à faire en sorte qu'ils prêtent à des gens qui créent de la richesse. Alors, si on ajoute à ça le fait que une partie de la monnaie qui est en circulation est une monnaie qui vous est apportée de l'extérieur et que le financement de l'économie est un financement de l'économie qui est lié à l'extérieur, il y a une équation fondamentale, alors sur ce slide qui est sur lequel... Donc, premier élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le banquier crée la monnaie. Deuxième élément, dans le financement de l'économie, vous avez l'épargne. Et l'épargne est très liée avec ce qui se passe au niveau extérieur. Alors, ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est la toute dernière équation. S moins I plus T moins G égale X moins M. X moins M, c'est les exportations moins les importations. C'est-à-dire, c'est le déficit extérieur d'un pays. Ce déficit extérieur, il est égal au déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a du déficit extérieur parce que l'État dépense trop, et à la différence entre l'épargne et l'investissement. Je ne vais pas vous démontrer pourquoi, c'est pas le jeu, mais je peux vous le démontrer. L'enjeu dans tout ça, qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand un pays est en déficit extérieur, c'est un pays qui a trop de capacité de dépense, et donc c'est un pays qui n'épargne pas assez. Un déficit extérieur, ça vous est présenté en général comme étant un problème de compétitivité. On a du déficit extérieur parce que on ne vend pas assez. Récemment, notre président de la République a été interviewé par M. Pernaut et M. Calvi, et M. Calvi lui a demandé qu'est-ce qu'il comptait faire pour l'industrie automobile. Parce qu'il y a 15 ans, on exportait des automobiles et maintenant, on est importateur net d'automobiles. Alors après, on m'a demandé mon avis sur cette... J'ai dit, moi, alors qu'est-ce qu'il compte faire le président de la République ? Vous savez, il compte agir. Il s'en occupe personnellement. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va monter les pneus lui-même. Je sais pas très bien. Il va faire quelque chose. Je ne sais pas très bien quoi, mais il va faire quelque chose. Moi, j'aurais... La question était ce qu'elle était, mais la réponse était idiote. Le problème du déficit de la France, ce n'est pas un problème de compétitivité. Il y a un siècle, on était exportateur net de textiles. On en sait quelque chose dans cette région. Moi, quand j'étais ici à la direction du journal de l'INSEE, il y avait un plan textile. On allait sauver Rouen, on allait... Bon, le fric qu'on a foutu là-dedans. Quand j'étais là, c'était l'époque de la crise de la sidérurgie lorraine. Quand je dis la crise de la sidérurgie lorraine, je n'ai jamais connu la sidérurgie lorraine qu'en crise, jusqu'au moment où il n'y en aura plus. Et quand Raymond Barre reçoit les sidérurgistes lorrains, on l'oblige à mettre de l'argent dans le truc. Et à un moment donné, un des sidérurgistes lui dit « Vous avez sauvé la sidérurgie et la Lorraine ». Et Raymond Barre dit « La sidérurgie peut-être, la Lorraine sûrement pas. » Parce que j'ai gaspillé de l'argent à essayer de faire vivre des choses qui n'existent plus. Il y a 3 siècles... Ce pays était exportateur net d'avoine. Et c'est très important, parce qu'il y a 3 siècles, l'avoine, c'était le pétrole. C'est grâce à l'avoine qu'on se déplaçait. Et donc, ce pays contrôlait le marché mondial du transport. Ce pays ne contrôle plus le marché mondial du transport. Le véritable enjeu, c'est non pas de produire des automobiles, mais de savoir ce qu'on produira dans 20 ans. Parce qu'on est entre nous, des automobiles en France, on n'en produira plus, comme on ne produit plus d'acier, comme on ne produit plus de textile. L'enjeu du pays n'est pas de se poser la question de savoir comment préserver ce qui est mort, mais comment faire vivre ce qui doit être l'avenir. Alors, à partir de ce moment-là, le problème de la compétitivité ne se pose pas. Sur le plan monétaire, le problème qui se pose, c'est le fait qu'un pays qui est en déficit extérieur est un pays qui manque d'épargne. Ça veut dire quoi sur le plan strictement monétaire ? Le commerce mondial, si vous êtes en déficit extérieur, le commerce mondial se fait en dollars. Si le commerce mondial se fait en dollars, si vous êtes en déficit extérieur, il faut que vous donniez aux gens qui sont en face de vous des dollars. Et donc, vous avez deux types de pays. Vous avez celui qui fabrique les dollars et ceux qui courent après les dollars. Donc, vous avez un pays pour qui le fait d'être en déficit de balance des paiements courants, d'être en déficit extérieur, de ne pas assez épargner, ne pose aucun problème. Le seul problème de ce pays, c'est qu'il n'y ait pas de rival au dollar. Qu'est-ce qu'il y a eu comme rival au dollar historiquement ? L'or, la livre sterling, l'euro. Qu'est devenu la livre sterling ? Un immense éclat de rire. Qu'est devenu l'or ? La matière première de la bijouterie. Que va devenir l'euro ? Un champ de ruines. Pourquoi ? Parce que tout ça dérange le pays dominant. Alors, un champ de ruines, et le sujet, c'est le DTS. Que va devenir le DTS ? Un objet d'étude pour les économistes. À l'homme de notre vie, qu'y aura-t-il ? Du dollar. Alors, on va voir... juste avant de regarder sur le plan physique ce que ça signifie, enfin, si je résume les problèmes, c'est qui crée de la monnaie ? Les banques. Est-ce qu'il y a trop de monnaie ? Pas toujours. Ça dépend pas de la quantité, mais de la qualité de la monnaie qu'on met en circulation. Quels sont les problèmes de financement qui se posent à une économie ? Son vrai problème se traduit par une absence d'équilibre extérieur, par un déficit ou par un excédent extérieur. Et quand vous avez un déficit extérieur, ce n'est pas un problème de compétitivité, c'est un problème de déséquilibre entre l'épargne et la consommation. Alors, juste par rapport à ces problèmes, comment ont réagi les économistes ? Je ne vais pas vous faire un très long cours d'histoire de la pensée économique, d'autant plus que, si vous voulez une réponse à ça, n'hésitez pas à acheter mon livre. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai des droits d'auteur assez élevés, mais que mon éditeur ne me les verse pas. Donc, c'est de la monnaie virtuelle. Et c'est très sympathique. Si vous faites des livres, c'est très bien, parce que ou bien ça ne se vend pas et votre éditeur ne vous donne rien, ou bien ça se vend et comme il a des problèmes de trésorerie, il garde le fric. Pour une fois qu'il a trouvé un moyen de gagner de l'argent, donc l'auteur dans le livre ne gagne jamais. Mais ça permet d'avoir une espèce de gloriole. J'ai fait des livres. Alors, le problème de la monnaie par rapport à... C'est que l'histoire de la pensée économique a fluctué autour de l'obsession monétaire et du refus de l'obsession monétaire. Si on fait commencer l'histoire de la pensée économique, on peut la faire commencer très très loin à l'époque des Grecs. Et notamment, le premier penseur économiste, c'était soi-disant un poète qui s'appelait Hésiode. Hésiode a écrit un poème sur la vie quotidienne en Grèce. Et à un moment donné, c'est un des conseils que donne un agriculteur à son frère. Il lui dit « Tu te réaliseras par le travail ». Je ne vais pas insister là-dessus, mais si vous avez la curiosité de lire le texte en question, vous apercevez qu'en fait, la pensée grecque est une pensée qui est très imprégnée de vision religieuse. Et le travail est récompensé parce que les dieux aiment les gens qui travaillent. C'est une forme d'amour qui n'est pas toujours évidente. Les dieux, quelquefois, sont assez discrets sur leur amour des gens qui travaillent. Ils n'en ont pas toujours conscience. Enfin, bon. Donc, mais c'est une idée qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que le travailleur est toujours magnifié par les dieux, y compris les dieux laïcs comme le marxisme et tout ça. Le mec qui travaille, c'est quelqu'un de bien. Bon. Mais la vraie pensée économique va apparaître au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'avoir une pensée économique, c'est développer trois choses. La première, être capable d'identifier un problème et de ne pas lui donner une réponse immédiate. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème qu'avaient identifié les économistes du XVIIIe siècle, qu'on appelle les physiocrates, c'était le problème de la dette publique. Le problème que nous sommes en train d'identifier les économistes d'aujourd'hui, c'est la dette publique. Comme quoi, hein, ça tourne, l'histoire se répète. Or, la réponse face à la dette publique, vous avez deux solutions. Soit vous annulez la dette publique en disant aux gens, écoutez, vous avez prêté aux Grecs. Vous saviez qu'ils étaient paresseux, menteurs, bon, enfin, je vous renvoie à la presse. Comment avez... Donc, ça, prêter aux Grecs, il faut punir. Donc, alors les Grecs se débattent en disant, écoutez, mais nous, on n'est pas si menteurs que ça. Et puis, notre ministre des Finances, dans la grande période des dérives des comptes, était crétois. Or, depuis Platon, on sait que tous les crétois sont des menteurs. Donc, bon, donc ils se débattent comme ils peuvent. Donc vous avez la première solution, et cette idée est idiote. Pourquoi ? Parce que si vous annulez les dettes, bah, on le voit en ce moment, vous dites aux gens qui ont prêté aux Grecs, c'est fini. On va vous faire un haircut. Bon, les mecs, c'est quoi la coupe de cheveux ? C'est crac-crac. Le haircut, c'est dans les comptes des banques. Le lendemain, que font les banques ? Elles se tirent. Elles vendent la dette italienne, la dette espagnole. Elles se tirent. Elles disent, écoutez, si avoir de la dette publique en Europe, c'est subir des pertes, moi, je m'en vais. Ce n'est pas une entreprise de mécénat, une banque. C'est... Bon. Donc, si vous faites défaut, si vous faites banqueroute, si vous croyez résoudre votre problème de façon immédiate, c'est-à-dire, je dois de l'argent, je ne peux pas payer, donc j'annule ma dette, mais ça vous saute à la figure. C'est-à-dire que vos taux d'intérêt explosent et vous ne résolvez pas le problème, vous le différez dans le temps. La référence, la physiocratie, c'est pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi. Si le roi n'arrive pas à rembourser ses dettes, c'est parce que le pays est pauvre. Et si le pays est pauvre, c'est parce que les paysans ne travaillent pas. Et pourquoi les paysans ne travaillent pas ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir, de réaliser la récolte qu'ils pourraient réaliser. Donc, la véritable réponse, c'est la croissance. Et pas l'annulation de dette. C'est toujours vrai, hein ? C'est toujours vrai. Sauf que, comme on est dirigé par des ignares, ça se termine mal. Mais autrement, c'est toujours vrai. Donc, premièrement, être économiste, c'est prendre une capacité de répondre à un problème, non pas par une évidence immédiate, mais qui est en réalité une erreur, mais par un raisonnement élaboré qui permet de contourner les évidences. Deuxièmement, c'est d'essayer d'observer la réalité, et de vérifier que ce qu'on dit est conforme à la réalité. Et troisièmement, avoir une capacité à être prescriptif, être capable de répondre aux attentes de la population en donnant des solutions aux problèmes que la population se pose. Alors, face à la monnaie, dans tout ça, les économistes, assez vite, sont arrivés à la conclusion que le débat monétaire avait obsédé, accaparé la production intellectuelle autour de la réflexion sur la richesse. Les grandes écoles qui se sont posés au départ des questions sur l'économie, ont essayé d'échapper au débat monétaire. Elles ont donc considéré au départ que la monnaie était quelque chose qui était apporté par les dieux, l'or, et que le fonctionnement sur l'organisation de la monnaie devait être un fonctionnement dans une articulation entre cette base monétaire initiale et la dynamique de création de monnaie par les banques, en encadrant cette dynamique de création de monnaie, mais qu'il ne fallait pas s'obséder sur le rôle de la monnaie et sur l'enjeu autour de la monnaie. Grosso modo, dans la deuxième école, qui s'appelle ici les Ricardo, les rendements décroissants, cette deuxième école s'est appuyée de façon très pragmatique sur le plan monétaire, sur un événement considérable qui a été la création d'une banque centrale au Royaume-Uni en 1694. La banque centrale du Royaume-Uni en 1694, donc 1694, deux mots, la Grande-Bretagne est en guerre. Elle est en guerre contre qui ? Contre la France. Comme disait le général de Gaulle, les Anglais, dès qu'ils rentrent en guerre, ils commencent par couler la flotte française, même si on est leur allié. Bon, il avait gardé un mauvais souvenir de Marcel Kébir. Donc, 1694, l'Angleterre est en guerre contre la France. 1693, l'Angleterre ne trouve pas à emprunter, et donc elle fait défaut. Mais le roi d'Angleterre, qui est hollandais, dit que c'est la dernière fois. La dernière fois, parce que si on fait défaut, si on ne rembourse pas ses dettes, après on a des taux d'intérêt très élevés. Et donc, on va créer une organisation, une banque, qui prêtera à l'État quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que si on prête à quelqu'un quoi qu'il arrive, ben, il n'y a aucune limite à son endettement. Si vous dites à l'État, écoutez mon vieux, allez-y de toute façon, nous, on fait tourner la planche à billets, on crée de la monnaie, on met en place un système, c'est-à-dire que le circuit est le suivant, les banques créent de la monnaie, comment elles créent de la monnaie ? En prêtant à l'État. Et puis ensuite, elles vont voir la Banque centrale et disent à la Banque centrale, vous me rachetez mes titres de dette publique. Et donc là, la Banque centrale ne crée pas de monnaie, mais change la nature de monnaie. Avant, la monnaie, c'était des comptes courants dans les banques. Une fois que ça arrive à la Banque centrale, ça devient les billets que nous utilisons, vous et moi. Et donc, il faut qu'il y ait une limite au système. Alors, l'apport des classiques, c'est de dire la limite au système, c'est que nous sommes dirigés par des gentlemen. C'est un peu ça le problème de l'économie moderne. L'économie du 19e siècle était dirigée par des gentlemen. Il y avait des limites. Mais l'économie moderne n'est sûrement pas dirigée par des gentlemen. Ça, c'est évident. Et ça, c'est un problème. Mais ce qui est important dans cette séquence d'écoles, qui sont les cinq grandes écoles que nous avons vues, plus celle qui est en train d'émerger, donc les physiocrates, les économistes classiques, les économistes néoclassiques, les keynésiens, et puis maintenant les nouveaux classiques, c'est cette idée qu'un des problèmes de la pensée économique, c'est de s'être obsédé de façon assez ridicule sur les problèmes monétaires et de ne pas avoir vraiment vu l'évolution de la réalité économique. Et l'évolution de cette réalité économique, c'est que progressivement, le monde a changé de modèle et que le monde est passé du modèle anglais que je viens de décrire à un modèle américain qui est radicalement différent et qui est fondé sur le pouvoir monétaire comme pouvoir d'expression de la puissance impériale. Grosso modo, depuis que nous avons de la vraie croissance économique, nous avons eu donc les physiocrates qui sont les premiers économistes. Et pourquoi il y a des économistes au XVIIIe siècle? Parce qu'il y a un début de croissance économique. Historiquement d'ailleurs, la production intellectuelle de l'économie est assez dominée par le pays dominant. Un économiste du XVIIIe siècle est français. Un économiste du XIXe siècle jusqu'en 1950 est anglais. Un économiste aujourd'hui est américain. Je suis d'ailleurs, à titre personnel, assez frappé par le fait que beaucoup d'économistes américains sont en réalité des économistes d'Europe centrale, et singulièrement des Tchèques. Et donc ça me rassure, parce que les Anglais et les Tchèques sont rentrés dans l'histoire comme étant des peuples ayant le sens de l'humour, et je me dis, être économiste, c'est pas totalement perdu, puisque c'est adhérer à des gens qui ont le sens de l'humour. Bon. Ça peut faire une forme d'humour noir, c'est le côté tchèque des choses, quelquefois la forme d'humour des économistes est un humour noir.